France Info.
Et bonjour à tous, bienvenue dans 8h30 Politique, un rendez-vous à retrouver chaque samedi à 8h30 sur France Info Radio et Télé, en compagnie de Gianni Calimi, rédactrice.
Bonjour,
rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France. On va évidemment revenir dans quelques minutes et pendant plusieurs minutes sur l'information principale du jour, à savoir la situation en Catalogne avec notre invité. C'est vous, Gianni, qui posez la première question à notre invité, Romain Reda, député les Républicains de l'Essonne. On va commencer par parler de politique française.
De politique française. Ah bon, d'accord, très bien. Bon, bah, Romain Reda, bonjour. Vous êtes membre du parti donc Les Républicains et député à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous pensez de la tragicomédie, de la pantalonnade, de la mascarade qui s'est passée au sein du bureau politique des Républicains? Est-ce que vous vous dites pas, vous, en tant que député tout jeune, 26 ans, qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère du parti républicain qui existe peut-être bien avant ma naissance, en tout cas avec l'UMP, le RPR et tutti quanti?
Moi, je suis profondément loyal envers ma famille politique. Je me suis engagé, j'avais 15-16 ans, à l'UMP. Je me suis engagé dans la grande famille de la droite et du centre. Et je me suis engagé pour que la droite républicaine défende ses valeurs et gagne des élections. Ce que nous avons fait depuis notamment 2012 et le tragique mandat de François Hollande.
Enfin, pas en 2017, hein.
Aujourd'hui, notre famille politique, vous dire qu'elle se porte pour le mieux, ce serait mentir. Et je pense qu'il faut être tout à fait honnête, nous regarder en face et surtout aborder les choses avec beaucoup d'humilité. Nous avons perdu, nous avons vécu deux défaites successives, même si nous avons pu avoir un groupe important aujourd'hui à l'Assemblée nationale et conserver le Sénat. Notre parti est moribond parce qu'il doit réfléchir. Il y a bien sûr une élection interne.
Il est moribond, vous estimez qu'il est moribond?
Oui, mais
à la veille,
vous savez,
de se donner un chef, vous estimez
vous savez,
qu'il est moribond?
Vous savez, rien n'est jamais perdu dans un parti politique. Le Parti Socialiste était le fameux cadavre à la renverse, parce que quand on se prend des coups électoraux, quand on a des défaites, en général, on va pas très bien. Et la reconstruction, elle va passer maintenant par une réflexion collective sur nos échecs, mais sur l'avenir. Je veux dire, moi, je suis là pour regarder vers l'avenir. J'ai confiance dans le redressement de la droite républicaine. Ce sera long, ce sera difficile. Ça va nécessiter de s'ouvrir à la société française, de renouer avec les Français.
Alors, je vous interromps, Romain Reda, avant de vous engager sur les perspectives, la ligne politique. Est-ce que vous êtes favorable à l'exclusion des fameux députés, voire ministres, hein, constructifs ou pas?
Mais pour moi, tous ces gens-là se sont exclus d'eux-mêmes. Mmh. L'important pour moi, c'est qu'il n'ait pas de fonction exécutive dans le parti que nous représentons.
Donc ça ne passe pas par une exclusion,
chacun institutionnelle. Chacun est libre d'adhérer à un parti politique. Chacun est libre d'adhérer à une association s'il trouve que c'est en accord avec ses valeurs.
Mais soyez plus clair, est-ce qu'il faut les exclure? Est-ce que le bureau politique qui doit se réunir la semaine prochaine de nouveau?
Pour moi, ils se sont exclus d'eux-mêmes. Et réunir des comités politiques, des bureaux politiques à n'en plus finir, pour en plus avoir la mascarade que nous avons sous les yeux, c'est proprement inutile. Regardons maintenant vers l'avenir, construisons un parti d'alternance et d'opposition.
Romain Reda, je propose qu'on mette la politique française sur pause dans cette interview, si vous voulez bien. Dans un instant, on va parler de la course pour la présidence des Républicains, puisqu'il y a aussi de l'actualité brûlante autour de ça. On va voir qui vous soutenez dans cette bataille. Il faut qu'on parle évidemment de la Catalogne. D'un côté, une région qui proclame son indépendance de manière unilatérale, c'était hier évidemment. De l'autre côté, Madrid qui décide de mettre la région sous tutelle. Dans un instant, on va en parler avec un autre invité qui est en ligne avec nous, mais vous êtes là forcément. Qu'est-ce que vous inspire cette situation en Catalogne, Robert Reda?
Bon, d'abord, je suis toujours prudent lorsque je parle d'un autre pays, même si c'est un pays européen et que nous sommes tous des citoyens européens. Et je pense que certains sont mieux placés pour jauger de la politique espagnole. Moi, ce que je constate et ce dont je me réjouis, c'est que le droit a triomphé. Et pour moi, la Constitution, c'est quelque chose de fort, qu'elle soit espagnole, qu'elle soit française.
Quand vous dites le droit, c'est-à-dire ce qu'a annoncé hier Mariano Rajoy.
Ce qui est important maintenant, c'est que la Catalogne retrouve un processus légal normal et un processus démocratique avec les élections qui ont été annoncées. Moi, je n'imagine pas qu'en France, on puisse faire entrave de cette manière-là, qu'un territoire pourrait faire entrave à la Constitution. En l'occurrence, par exemple, une collectivité qui déciderait de faire la loi. Donc je me place toujours du côté du droit et du côté de la hiérarchie des normes, et c'est la Constitution qui prévaut.
On va voir ce qu'en pense notre autre invité. Bonjour Gérard Onesta.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous sur France Info. Vous êtes conseiller régional d'Occitanie, ancien député européen, Europe Écologie Les Verts, observateur international indépendant, je le précise, du référendum du 1er octobre sur justement cette indépendance de la Catalogne. Une réaction à ce que vient de dire Romain Reda sur le droit qui triomphe, vous n'êtes pas forcément d'accord ?
dans cette partie extrêmement complexe, on sait que chacun des deux camps avait sa part de légalité. La loi catalane était plutôt du côté de Barcelone, mais pas complètement. Ils ont mordu la ligne de temps en temps. La loi espagnole plutôt du côté de Rajoy, mais pas totalement. Quand on regarde l'article 2 ou 10 de sa propre constitution, on voit qu'il y avait des possibilités d'organiser ce référendum. Et quant au droit international, il est plutôt du côté de Barcelone, notamment à travers le droit des peuples à déterminer leur propre destin. Qu'on voit que la chose est complexe. Et la seule façon maintenant d'en sortir, et on le dit depuis des années, c'est qu'il faut en finir avec ce poker menteur de la soi-disant majorité silencieuse. Donc tous les camps se réclament. La seule façon de connaître ce que veut dire la majorité silencieuse, c'est encore de lui donner la parole. Et je ne connais pas de meilleur moyen que d'aller aux urnes. Et là, c'est assez intéressant ce qui se passe depuis hier. Jusqu'à maintenant, c'était plutôt Barcelone qui demandait à aller aux urnes. Ils l'ont fait de manière différente, en 2014 de manière informelle, en 2015 lors des élections régionales. Et chaque fois, Madrid disait « mais ces scrutins ne valent rien ». Et maintenant, c'est Madrid qui demande un scrutin très rapide. Et on voit que les indépendantistes s'interrogent, doivent-ils tomber dans ce piège ou pas ? S'ils y vont, on va dire, ils reconnaîtront eux-mêmes qu'ils ne sont pas vraiment indépendants puisqu'ils vont à des élections convoquées par un pays tiers. Et s'ils y vont pas, ils laissent la porte ouverte, bien évidemment, à la reprise en main de la Generalitat par leurs adversaires.
On entend beaucoup depuis hier, Romain Reda, sur France Info notamment, les deux camps finalement, les loyalistes, les légalistes et les indépendantistes, être quand même inquiets pour ce qui va se passer ensuite. Est-ce que vous-même, vous nourrissez cette forme d'inquiétude quant à cette situation qui pour l'instant est dans une impasse politique ?
Moi, là où je m'inquiète globalement, c'est pour l'Europe. Moi, je me place du côté du droit, mais je me place surtout du côté de l'Europe. Je suis favorable à la construction européenne et ce que ça dit, ce que ce mouvement indépendantiste dit aujourd'hui de l'état de l'Europe est particulièrement grave à mon sens. C'est le refus de la mutualisation d'un certain nombre de moyens. C'est même, par certains égards et dans certains discours, une volonté d'accaparement de ressources, de richesses. Et puis c'est le refus d'un processus aussi de mutualisation démocratique en Europe. Donc moi je trouve ça très dangereux et ça divise non seulement les Catalans, mais ça divise aussi un risque de division fort pour les Européens.
Vous restez avec nous, Romain Reda, sur France Info. On reste également avec Gérard Onesta pour quelques minutes à 8h40 sur France Info. C'est l'info avec Léo Chapuis.
Et donc retour à la réalité ce matin pour la Catalogne après avoir fêté l'indépendance. Les séparatistes se retrouvent donc sous tutelle, tutelle votée hier par Madrid. Madrid qui reprend la main avec fermeté. Le gouvernement catalan est destitué. De nouvelles élections sont programmées dans la région. Ce sera le 21 décembre. Et la justice espagnole lance également des poursuites contre le président séparatiste de Catalogne. Il risque jusqu'à 30 ans de prison. L'actualité en France avec les députés qui donnent leur feu vert aux 11 vaccins obligatoires pour les enfants. Mesure du gouvernement pour combattre le retour de certaines maladies. Toutes les piqûres seront donc nécessaires pour inscrire votre enfant à la crèche ou à l'école à partir de l'an prochain. Et puis un mot de football, Paris renoue avec la victoire en Ligue 1 après le match nul des Parisiens la semaine dernière à Marseille lors du Classico. Et bien victoire 3-0 hier soir au Parc des Princes, c'était face à Nice. Paris qui creuse donc l'écart au classement avec Monaco, le deuxième. Monaco qui joue cet après-midi sur le terrain de Bordeaux.
Et Abondance de biens ne nuit pas sur France Info. On a deux invités actuellement en direct avec Robin Reda, député Les Républicains de l'Essonne, Gérard Onesta également, Jannick Halimi, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien aujourd'hui en France, est toujours avec nous. C'est à vous, Jannick.
Oui, Gérard Onesta, bonjour. Vous dites que la réunion de la convocation d'élections risque d'être un piège. Mais en quoi ce serait un piège pour la démocratie et même pour le mouvement indépendant catalan, puisque vous-même vous dites qu'une majorité silencieuse est un mythe.
Alors ce n'est pas un piège pour le démocrate que je suis, ça peut être un piège pour les partis indépendantistes. Car
pour quelle raison vous pensez qu'ils pourraient perdre ces élections ?
Non, mais simplement le fait d'accepter de participer à des élections convoquées par autre chose que l'autorité de la République et qu'ils veulent maintenant totalement indépendante donne l'impression qu'ils ne sont pas vraiment en indépendance.
On voit déjà mais ils n'ont pas l'indépendance puisque ces élections pourraient déboucher sur une indépendance.
Je vous parle dans leur logique. Dans leur logique, ils sont indépendants depuis hier 15h27, d'accord. Dans cette logique-là, on voit déjà le parti La Coupe qui dit qu'ils ne feront pas le 21 décembre des élections, ils feront une grande paella. Il faut savoir que si effectivement 5, 10, 15% des indépendantistes ne vont pas aux urnes, M. Rajoy va avoir une majorité à coup sûr. S'ils y vont tous aux urnes, ils peuvent gagner, mais ça voudra dire quelque part reconnaître qu'ils ne sont pas vraiment indépendants, qu'ils sont toujours dans une juridiction administrée par Madrid. Peut-être la sortie élégante serait qu'eux-mêmes appellent à des élections ce jour-là, dans le cadre d'un consensus qu'ils voudraient une fois de plus reprendre à leur avantage. On voit bien que la solution est extrêmement complexe. Et tout ça, notez-le, se fait sous absence totale de sondage, notamment un sondage fiable, alors qu'en France, on sera abreuvé de sondages au jour le jour pour savoir comment bouge le curseur. Là, on avance dans le brouillard le plus total.
Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin, Gérard Onesta, conseiller régional d'Occitanie, ancien député européen Europe Écologie Les Verts. Pour conclure sur ce sujet, avant de revenir à la politique française et aux Républicains, Robin Reda, vous avez parlé de l'Europe tout à l'heure, l'Europe qui a clairement dit hier qu'elle ne reconnaissait que l'Espagne comme interlocuteur et donc, on comprend pas de Catalogne indépendante. Vous pensez que l'Europe doit s'en mêler, que Emmanuel Macron doit rapidement s'exprimer sur le sujet ou qu'il y aurait une forme, entre guillemets, d'ingérence et que c'est aux Espagnols de décider eux-mêmes et de se débrouiller entre eux finalement?
Alors c'est au peuple espagnol et au gouvernement espagnol de prendre ses responsabilités. On a vu que les choses se sont considérablement accélérées parce qu'on a beaucoup reproché à Mariano Rajoy de ne pas intervenir dans ce débat. Et je pense que les choses vont dans le bon sens et qu'il y a une reprise en main du pays. Mmh. L'Europe doit s'exprimer pour garantir son unité. Reconnaît évidemment la diversité de ses peuples, la spécificité de l'Espagne. Elle ne doit pas faire ingérence, mais elle doit rappeler son engagement d'unité.
Yannick.
Oui, alors Robin Reda, revenons à la politique intérieure et notamment à la politique intestine, j'allais dire, au sein des Républicains. Comme on vous le demandait tout à l'heure, qui soutenez-vous à la tête du Parti des Républicains? Qui allez-vous soutenir?
Je suis député de la Nation, je suis très engagé chez les Républicains, mais je n'ai pas souhaité m'engager pleinement dans cette élection interne. Je veux l'unité là aussi des militants et la réunification des droites.
Oui, mais il faut passer par l'élection du président.
Il faut passer par l'élection, je pense que c'est très important que le parti soit dirigé.
Je rappelle juste, pardon, que c'est le 10 et 17 décembre et qu'il y a trois candidats, hein, Laurent Wauquiez, Florence Portelli et Maëlle Decalant.
Ce sont trois personnalités... que j'apprécie et que je connais bien, mais je pense que le parti doit être dirigé, c'est essentiel, on l'a encore vu ces derniers jours.
Et qui est le plus à même des trois, le diriger?
Il y a besoin d'avoir un cap, je pense qu'ils sont tous à même de diriger le parti, et je pense surtout qu'il
faudra
que le parti s'ouvre à nouveau.
On va insister jusqu'à ce que vous nous répondiez.
Vous soutiendrez le président ou la présidente, quel qu'il soit, d'ailleurs ça ne s'appellera pas la présidente, d'ailleurs je... Bref, quel qu'il soit, une fois l'élection passée...
Moi, je vous l'ai dit, je suis loyal à mon parti, à mon mouvement, et je veux qu'il réussisse dans l'avenir et qu'il propose un nouveau cap et un nouveau projet de société aux Français. Et moi, c'est sur ça que je veux me concentrer. Aujourd'hui, je suis député de l'opposition. Nous avons énormément à faire à droite. Nous avons à réfléchir ensemble, collectivement, à un nouveau projet de société pour les Français. Emmanuel Macron, s'il a eu un mérite en faisant, soi-disant, exploser la politique française, c'est qu'il a mis fin... à un système d'alternance automatique entre la gauche et la droite. Et nous ne pouvons pas parier sur l'échec d'Emmanuel Macron. Et moi, à titre personnel, je ne veux pas parier sur l'échec de mon pays.
Alors, attendez.
Donc, qu'est-ce que nous avons à proposer par la suite? Et moi, je veux travailler sur le fond.
Romain Reda, justement, sur le fond, je vous pose la question différemment. Vous ne voulez pas donner de nom, et c'est votre droit, c'est tout à votre honneur, mais sur la ligne politique, parce que ce débat-là va forcément avoir lieu aussi, peut-être en fonction des scores à ce scrutin interne pour la présidence du parti. Quelle ligne politique? Une droite dure, celle qu'on attribue à Laurent Wauquiez, une droite plus au centre, une droite sociale? Vos tripes politiques, elles vous conduisent vers quoi?
Moi, mes tripes politiques, elles me conduisent à dire que si nous ne réunissons pas à nouveau les droites, à la fois modérées et parfois plus souverainistes, qui vont se aussi exprimer chez nous, nous n'arriverons pas à reconquérir le cœur des Français. Et nous ne pouvons pas donner l'image de la division, soit idéologique, soit entre les personnes. La droite a trop souffert ces dernières années, et de guerre des chefs, et de division idéologique.
Et donc vous pensez que Laurent Wauquiez, s'il est élu président, comme ça semble être tout de même la probabilité la plus forte, pourrait faire cette synthèse entre une droite de droite, comme il dit lui-même, hein, et une droite plus centriste, plus...
J'espère qu'il l'a compris. Nous devons effectivement incarner toutes les droites. J'espère que les candidats à la présidence du mouvement comprendront aussi que nous ne sommes plus dans un système où il suffit d'être président d'un parti politique pour ensuite être président à la sacro-sainte élection de la République française, qui est l'élection du président de la République. Il y a des étapes de la reconstruction et de notre mouvement et de notre pays, des élections locales. Les Républicains aujourd'hui ont le tissu le plus important d'élus locaux. C'est une formidable opportunité pour aller de nouveau à la rencontre des Français et que la droite retrouve de l'empathie. Je pense que c'est ce que les gens attendent.
Yannick l'a rappelé, Laurent Wauquiez est le grand favori de cette élection. Ses adversaires, ses deux adversaires, Florence Portillier et Maëlle de Calan, exigent un débat télévisé. Laurent Wauquiez n'a pas l'air très chaud pour l'instant parce qu'il ne souhaiterait pas, c'est ce qui se dit en interne, laisser un boulevard à son opposition. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il y ait un débat télévisé qui permette d'éclaircir les positions de chacun ou pas ?
Par principe, je suis pour le débat télévisé. Souvenons-nous de ce qui s'est passé pendant la primaire de la droite et du centre. Le débat télévisé ont permis de faire connaître tous les candidats et ont parfois permis d'équilibrer aussi les positionnements et les votes par rapport aux positions acquises d'avance qui étaient notamment données par les sondages et les médias. Donc moi, je suis plutôt favorable pour qu'il y ait un débat équilibré et pour qu'il y ait un résultat aussi équilibré, que tous les candidats aient la chance de s'exprimer et la chance de débattre entre eux.
Laurent Wauquiez, il faut le préciser, est pour un débat sur scène devant, devant les militants. Il n'est pas contre le débat dans son principe, mais pour vous, ce n'est pas suffisant.
Ce qui est important, c'est que ce débat soit public, peu importe son canal de médiatisation.
Ah bon. Donc,
il faut qu'il soit public. C'est un débat qui portera avant tout sur la gestion de notre mouvement. Qu'est-ce que nous demandent nos militants aujourd'hui lorsqu'on va à leur rencontre ? Ils nous demandent que le parti soit bien tenu, que l'on puisse se remettre en ordre de marche et de bataille pour les élections qui viennent, que nous allions à la conquête de nouveaux militants, de nouveaux sympathisants qui pourraient venir grossir les rangs des Républicains. Et moi, je souhaite effectivement qu'on ait ce débat de parti et qui concerne essentiellement nos militants et nos sympathisants, et qu'ensuite on puisse incarner quelque chose en parlant du fond. Ce sont évidemment les candidats à la présidence des Républicains qui le feront, mais c'est aussi tous les représentants de la droite et du centre de l'opposition nationale.
Deux petites questions pour
une peut-être. Parce
une
qu'on
peut-être.
A pas
alors, vous restez au sein des Républicains, vous ne quittez pas les Républicains si Laurent Wauquiez est élu président. On a bien compris.
Les Républicains, c'est mon parti, c'est ma famille politique. Je suis fidèle à mes électeurs, fidèle à la ligne que j'ai donnée, mais je souhaite que les Républicains, aujourd'hui comme demain, incarne toutes les sensibilités de la droite et du centre, parce que c'est cette stratégie qui nous a toujours fait gagner. Et moi,
je
veux retrouver une droite qui gagne. Et malheureusement, allez, cette année, elle a perdu.
Bon, dans un instant, restez avec nous si ça peut peut-être vous attirer pour la dernière partie. On va parler de Père Noël, même si c'est un peu en avance. Vous allez comprendre assez rapidement. 8h50, le 8h30 politique continue sur France Info et c'est l'info avec Léo Chapuis.
La Catalogne fait donc un saut dans l'inconnu. On a du mal à mesurer ce matin toutes les conséquences après cette journée historique. Déclaration d'indépendance des Catalans suivie de la mise sous tutelle par Madrid. Le gouvernement espagnol, l'État espagnol qui reprend le contrôle de la région. Destitution du gouvernement catalan et de nouvelles élections prévues le 21 décembre. La communauté internationale soutient clairement Madrid et craint des débordements. Les partisans de l'unité de l'Espagne prévoient de se mobiliser ce samedi. L'actualité, c'est aussi Tariq Ramadan qui est à nouveau visé par une plainte pour viol. Une deuxième femme accuse l'islamologue suisse des violences sexuelles qui auraient été commises en 2009. L'événement du jour en tennis, c'est la demi-finale que va disputer cet après-midi Caroline Garcia. Demi-finale au Masters de Singapour, tournoi qui regroupe les meilleures joueuses mondiales. Caroline Garcia va affronter l'américaine Venus Williams. C'est la première française, Caroline Garcia, à ce niveau depuis Amélie Mauresmo en 2006. Et puis n'oubliez pas, petit rappel, la nuit prochaine, on passe à l'heure d'hiver. À 3h du matin, il sera en fait 2h. On va donc gagner une heure de sommeil.
France Info. 8h30 politique sur France Info, toujours en compagnie de Yannick Halimi, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France, et de notre invité Robin Reda, député Les Républicains de l'Essonne. On va écouter ce qu'a dit un certain Emmanuel Macron. Il termine aujourd'hui sa visite en Guyane et il a notamment dit ceci par rapport au fait qu'on lui reproche de ne pas avoir tenu les promesses de l'État.
Je ne suis pas le Père Noël parce que les Guyanais ne sont pas des enfants. Je ne suis pas venu faire des promesses. Ce temps-là est fini. L'État a fait trop de promesses qui n'ont pas été tenues. Donc je suis là pour dire les choses en vérité telles que je les vois, prendre des engagements que je saurais tenir durant mon quinquennat et aussi assurer les éléments d'autorité indispensables sur ce territoire.
Robin Reda, je ne vous apprends pas que cette phrase a fait un petit peu jaser. Je ne suis pas le Père Noël. Il a tout de même réaffirmé, Emmanuel Macron, que la France accorderait le milliard d'euros d'aide qu'elle avait promis l'année dernière. Est-ce que vous condamnez cette phrase « je ne suis pas le Père Noël » Est-ce que c'est une maladresse ou est-ce qu'il y a besoin de... Est-ce que vous la condamnez tout bêtement ?
Non, d'abord, je pense que L'État doit montrer son autorité, c'est évident. Il doit aussi restaurer sa crédibilité. Parce que quand il y a des engagements qui sont pris par l'État français, ils doivent être tenus. Après, sur la phrase d'Emmanuel Macron, malheureusement, ça révèle toute la méthode du personnage. Le manque d'empathie envers les Français et le culte de la petite phrase qui est reprise et qui fait oublier ce que je viens de dire, c'est-à-dire les engagements de l'État et l'autorité qu'il va falloir incarner pour, là aussi, solidifier nos relations avec la Guyane.
Jeannick Halimi.
Juste pour terminer sur cette question, Emmanuel Macron a... prévu d'organiser des assises de l'outre-mer au printemps, donc une grande concertation. Est-ce que c'est une démarche qui vous convient, mais de façon plus générale, cette politique à la Macron, d'organiser des assises, des concertations, on a vu ça sur le droit du travail, est-ce que ça vous convient, vous, en tant que député Les Républicains ?
Moi, j'ai le sens du collectif, et je pense qu'aujourd'hui, on peut plus avancer seul, et il faut effectivement faire confiance à l'intelligence collective des citoyens, des acteurs de la société civile.
Donc Emmanuel Macron a raison de procéder de cette façon.
Après, moi, ce que je constate, c'est qu'Emmanuel Macron lance beaucoup d'assises. Donc on s'assoit beaucoup avec Emmanuel Macron alors qu'on devrait marcher, mais que finalement c'est un homme qui ne délibère que par lui-même. On a beaucoup vu ces derniers temps l'exercice très solitaire du pouvoir d'Emmanuel Macron, encore dans l'incarnation de la gestion de son parti politique.
Donc sont des écrans de fumée, c'est
donc je pense que malheureusement c'est l'illustration aussi d'une vieille politique de la démocratie participative qui consiste à écouter mais à ne pas retenir.
On a beaucoup parlé, puisque vous parlez de l'intelligence collective, on a beaucoup parlé, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, de la manière dont tactiquement le politicien, le stratège Emmanuel Macron avait un petit peu bouleversé les paysages politiques et entre guillemets atomisé l'opposition. Vous avez été élu donc dans l'Essonne, vous avez résisté à la fameuse vague En Marche. Comment vous vous êtes comporté vous-même sur les textes de loi à l'Assemblée ? Vous avez voté pour ou contre ce qui était proposé par la majorité, notamment le budget, les ordonnances sur le travail, la moralisation de la vie politique. Vous avez suivi la majorité ou vous êtes plutôt placé en opposition, Romain Reda ?
D'abord, quand on perd des élections, que ce soit contre Emmanuel Macron ou contre quelqu'un d'autre, on n'est jamais en très bon état. Donc le terme d'atomiser, je le prends pour ce qu'il est, je prends la défaite avec humilité, mais je crois qu'il y a des marges pour reconstruire aujourd'hui une opposition forte, crédible et qui propose un projet. Ensuite, sur le comportement électoral, effectivement, moi je souhaite que nous soyons dans une perspective où nous ayons toujours la réussite de la France en ligne de mire. Et je pense que les Français, y compris nos sympathisants, y compris ceux qui ne sont pas d'accord avec Emmanuel Macron, nous reprocheraient d'être dans une situation de blocage, de paralysie.
Vous avez approuvé ces textes ?
D'un manque de pragmatisme. J'ai approuvé des textes, notamment les ordonnances sur la loi travail. Nous avions fait les mêmes propositions et je pense que ça va dans le bon sens pour l'emploi. En revanche, moi je ne suis pas un béni oui-oui, je suis dans l'opposition et je veux aussi traquer les coups de com'. La loi sur la moralisation, c'était un coup de communication.
Ah bon ?
Le casier judiciaire vierge, aujourd'hui, il ne sera pas exigé en amont d'une élection nationale comme locale. Il faut regarder dans le détail entre ce qui est dit et ce qui est proclamé par les porte-paroles et ce qui est fait sur le terrain. C'est comme le sujet des travailleurs détachés. On entend un satisfecit généralisé cette semaine, sauf qu'on a peut-être résolu dans 4 ans une des questions majeures qui est le dumping salarial, mais les charges continueront à être payées dans les pays d'origine et le dumping social qui fait que nos entreprises ont du mal à s'en sortir n'est pas résolu. Donc voilà, c'est toujours la même méthode, beaucoup de communication. Et finalement, quand on rentre dans le détail, il faut aussi que l'opposition fasse son rôle d'informer et de mettre en avant les difficultés qui peuvent continuer à prévaloir.
Alors tout de même, Robin Reda, vous faites également des propositions, vous n'êtes pas que dans la contestation. Vous avez fait récemment, vous personnellement, une proposition en matière de cannabis. Vous avez souhaité que le cannabis reste un délit pénal, mais soit plutôt contraventionnalisé, si je puis dire. C'est également une des pistes de réflexion d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez que les choses peuvent avancer et vite sur ce sujet avec le soutien des Républicains, par exemple ?
Je crois que nous avons aujourd'hui à réfléchir sur ce sujet, en particulier des drogues, à la situation dans laquelle est plongée notre société. On a plus d'un million de consommateurs réguliers de cannabis et encore plus d'usagers quotidiens de drogue en France. Face à cela, la politique de prévention et de santé publique est à l'arrêt. Et le projet d'Emmanuel Macron est de mettre une simple amende aux consommateurs de drogue et en particulier aux fumeurs de cannabis pour tenter d'enrayer l'usage et d'enrayer les trafics.
Et également pour désengorger les tribunaux, également.
Oui, mais ils sont déjà aujourd'hui largement désengorgés parce que la plupart des fumeurs de cannabis s'en sortent avec des rappels à la loi et il n'y a pas de sanctions au bout du compte. Donc il faut effectivement réprimer l'usage et en particulier l'usage récréatif.
administratif parce que ce n'est pas un bon message de santé publique. Mais il faut s'attaquer aussi à la source. Taxer la demande, c'est bien, mais c'est l'offre le problème aujourd'hui. Et c'est les trafics de drogue, en particulier dans nos quartiers. Aujourd'hui, la politique de sécurité envers ces trafics n'est pas assez
la police
ambitieuse.
De proximité, en un mot, vous êtes plutôt pour ou plutôt contre à la sauce Macron? En oui un mot, oui ou non, là
hein. Je trouve que vouloir instaurer une politique de proximité, c'est méprisant à l'égard de nos policiers qui sont chaque jour sur le terrain et qui sont déjà dans la proximité.
Allez, merci Romain Reda d'être venu ce matin sur France Info, radio et télé. Merci à vous, Jeannick Halimi. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau 8h30 politique. Merci à tous.